entrée sans frapper.
Un coup de foudre créatif, c'est de cette manière qu'est qualifiée la rencontre entre une des plus grandes comédiennes de son temps et un des plus grands réalisateurs français, Romy Schneider et Claude Sauté. Ensemble, ils ont tourné 5 films entre 1970 et 1978. Romy Sauté, c'est le sujet du dernier livre de notre invité de ce midi, Jean-Pierre Lavoignat. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir pour parler de ce livre, très beau livre, édité aux éditions de La Martinière. Vous êtes journaliste spécialisé dans le 7e art. Vous avez été rédacteur en chef du magazine Première, cofondateur du magazine Studio. Les deux, je m'en souviens encore, ont d'ailleurs souvent fait leur couve avec Romy Schneider. Vous êtes un passionné de cette comédienne. Vous avez été le commissaire de l'exposition Romy qui, cette nuit, il y a une dizaine d'années, à Boulogne-Billancourt. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Romy en 2012, mais aussi Casino divers, c'est coécrit avec l'agent des stars, Dominique Besnéard, et aujourd'hui, ce très beau livre sur la relation entre Romy Schneider et Claude Sauté, avec de nombreuses photos, de nombreux témoignages aussi. Il y a des témoignages de Philippe Sard, d'Isabelle Huppert, de Sandrine Kiberlin, de Jean Dujardin et bien d'autres. Pourquoi, Jean-Pierre Lavoignat, cette fascination que vous avez pour Romy Schneider? Est-ce que c'est une fascination de cinéphile, de journaliste ou de simple spectateur?
Les trois.
Ouais.
Les trois.
Mais pourquoi c'est cette fascination?
D'abord comme spectateur, puisque moi j'ai découvert Romy Schneider. Bon, enfant, forcément, j'ai vu les Sissi, mais
ouais.
C'est surtout ma passion pour elle. Elle vient à la fois de la piscine,
ouais.
Que j'ai vue à sa sortie, ça ne me rajeunit pas. Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec Les choses de la vie, ouais. Max et les ferrailleurs. Et tout de suite, j'ai aimé à la fois la comédienne et le metteur en scène. La comédienne, parce que d'abord, elle est d'une beauté foudroyante, mais d'une beauté, comment dire, qui éloigne pas, qui attire vers elle.
Mmh.
Et puis, elle a un pouvoir d'émotion incroyable et une très, très belle puissance d'incarnation. C'est-à-dire
ouais.
que quand on la voit à l'écran, on n'a aucun doute, elle est le personnage, on ne se pose même pas la question. Quoi. C'est une actrice, on ne sent jamais le travail,
ouais.
elle est tout de suite ce personnage qu'on lui a chargé d'interpréter.
Ouais, on ne sent pas le travail et pourtant il y en est, c'est ce que vous racontez
a,
finalement dans ce bouquin, puisque vous retracez évidemment la carrière conjointe entre Romy Schneider et Claude Sauté, c'est-à-dire 5 films, et quel film on va en parler. Mais comment avez-vous, maintenant on va parler un petit peu de Claude Sauté, qui est quand même l'autre héros de ce bouquin, comment avez-vous découvert le cinéma de Sauté? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Moi, j'ai découvert Les choses de la vie, et puis Max et les ferrailleurs, et surtout César et Rosalie.
Ouais.
Enfin, les trois quasiment dans la foulée.
Pourquoi surtout?
Non, parce que c'est de ceux qu'ils ont fait ensemble, c'est un de mes films préférés.
Ouais.
Il y a quelque chose, cette histoire est magique de cette femme qui aime deux hommes à la fois et qui n'arrive pas à choisir et qui assume le fait de ne pas pouvoir choisir. Et puis le fait que ces deux hommes, au début rivaux, finissent par devenir amis. Je trouve que c'est une histoire magnifique.
Ouais, ouais.
Mais ce qui m'a touché dans les films de Sauté, c'est que à la fois, j'y retrouvais des émotions, des sentiments, des interrogations qui pouvaient être les miennes. Et en même temps, ça m'ouvrait un monde de questionnements, d'interrogations sur les rapports amoureux, sur les rapports sociaux. Je trouvais que la manière qu'il avait d'étudier, de montrer à la fois les aspirations et les failles de ces personnages, ça me touchait beaucoup.
Ouais, ouais.
Et il se trouve que comme j'aimais beaucoup son cinéma, comme journaliste à Première, je l'ai rencontré assez vite et j'ai aimé autant l'homme que ses films.
Mmh.
C'était un homme incroyablement à la fois pudique et chaleureux, l'émotion au bord des lèvres ou plutôt au bord des yeux. Très souvent, sa voix s'étouffait, il avait les larmes qui montaient aux yeux quand il parlait de ses films et de ses personnages.
Ouais.
Et puis, il était très bienveillant avec nous, peut-être parce qu'on était des jeunes journalistes à l'époque, je sais pas, je devais avoir 26 ans, 27 ans, et que ça l'amusait sans doute que des jeunes gens s'intéressent à son cinéma, et
ouais.
du coup il a toujours été bienveillant avec nous, on l'a mis à contribution souvent, on l'a suivi sur ses tournages, on a fait beaucoup d'interviews de lui, et voilà, et du coup l'idée de parler de ce tandem qui est quand même assez rare dans le cinéma français, pensées d'une actrice et d'un metteur en scène s'est imposée à moi petit à petit, notamment après l'exposition dont je m'étais occupé.
Ouais.
En fait, l'idée est venue de tous les documents que m'avait prêté Yves Sauté, le fils de Claude Sauté, qui a gardé tous les souvenirs de son père, et notamment des télégrammes, des mots de Romy Schneider, des plans de travail, des feuilles de service. Et il m'avait prêté tout ça au moment de l'exposition à Boulogne il y a une dizaine d'années. Et quand je les lui ai rendus, je me suis dit c'est quand même dommage de les lui rendre et que ça retourne dans les placards.
Mais ouais, c'est vrai.
Ça serait joli d'en faire un livre.
Puis c'est
voilà,
exactement ça, ouais. Il y a des documents incroyables, ben notamment, vous l'avez cité, hein, les télégrammes de Romy Schneider ou les lettres, parce qu'ils s'échangeaient souvent des lettres aussi sur le plateau, on va en parler. Voilà, vous avez raconté votre Sauté et votre rencontre avec Sauté. Est-ce que vous avez rencontré ou croisé Romy Schneider en tant que journaliste?
Alors, je l'ai croisé plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais interviewé parce qu'à l'époque de Première, le rédacteur en chef, c'était Marc Esposito, avec qui après nous avons fait Studio Magazine, ouais, qui lui aussi était fou et de Romy Schneider et de Claude Sauté. Et donc, c'était le privilège du chef, c'est lui qui l'interviewait.
Ah,
et hélas, elle n'a pas vécu assez longtemps pour qu'on se passe le relais, comme on se l'est passé sur d'autres actrices comme Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani.
Ouais, c'est un regret.
Oui, bien sûr.
C'est une rencontre magique, évidemment, qui va donner lieu à 5 films. Parce que vous l'avez dit, c'est une collaboration unique, mais surtout, quand on sait qu'elle a débouché sur 5 grands films, 5 chefs-d'œuvre, ça l'est d'autant plus. Je voudrais qu'on resitue peut-être Romy Schneider et Claude Sauté au moment de cette rencontre. Parce que l'un a laissé tomber le cinéma, il n'est plus que scénariste. L'autre, elle est encore Sissi, mais plus pour longtemps. Elle vient de finir le tournage de La Piscine et elle va tourner une énorme page de son histoire.
Mais oui, en fait, ce qui est beau dans cette rencontre, c'est qu'ils sont quasiment tous les deux au même stade de leur carrière.
Ouais.
C'est-à-dire, lui a renoncé à la mise en scène. Il travaille sur le scénario des autres, ce que Truffaut disait qu'il était un excellent ressemeleur de scénario.
Ouais. En anglais, c'est-à-dire on dit script doctor. Ouais, voilà.
Voilà, il travaillait sur les scénarios des autres et il repeignait les appartements de ses copains et cette vie lui allait très bien. Il avait renoncé à la mise en scène après les 2-3 films qu'il avait fait, qui n'avaient pas marché, qu'il avait laissé un peu déçu, un peu amer. Et elle avait décidé, après l'expérience américaine, après la rupture avec Delon, de retourner en Allemagne. Et là, elle était tombée amoureuse de Harry Mayen, un dramaturge allemand. Et elle avait décidé de mettre un peu sa carrière entre parenthèses, notamment pour avoir un enfant. Et ils ont eu ensemble leur fils David. Mmh. Et donc, sa carrière était un peu entre parenthèses. Elle ne savait pas trop de quoi l'avenir allait être fait. Là-dessus, l'instrument du destin, c'est Alain Delon qui l'impose dans La Piscine.
Ouais.
Et du coup, elle revient en France pour tourner La Piscine. Mais même quand elle tourne La Piscine, elle ne sait pas de quoi son avenir va être fait.
Mmh.
Et à ce moment-là, Jean-Loup Dabadi, qui est un jeune scénariste, parolier, un touche-à-tout merveilleux, qui est très ami déjà avec Claude Sauté, lui dit « Voilà, j'ai fait l'adaptation d'un petit roman qui s'appelle Les choses de la vie, mais j'arrive pas à trouver de metteur en scène pour le porter au cinéma. Toi qui connais tout le monde, est-ce que tu peux le lire et me dire à qui tu penses ?»
Ouais.
Et Sauté lit le scénario d'une traite et les choses de la vie, c'est l'histoire d'un accident de voiture et l'homme qui conduit, qui a une sorte de quadragénaire qui s'interroge beaucoup sur sa vie professionnelle, sur sa vie sentimentale surtout, revoit toute sa vie au cours de cet accident.
Mmh.
Et Sauté est fasciné par l'accident de voiture en se disant voilà un vrai défi de mise en scène. Si j'arrive à le faire, c'est génial. Et donc, il a à nouveau envie de retourner derrière la caméra. Il choisit tout de suite pour son héros, il choisit Michel Piccoli. Et il cherche le personnage de la maîtresse, Hélène. Et il la trouve pas. Et plusieurs personnes lui parlent de Romy Schneider. Il dit non, mais c'est Sissi. Même s'il lui avouera plus tard qu'il ne l'a pas vue dans les Sissi. Il dit non, mais c'est Sissi. Et puis, un de ses amis et un peu plus pressant que les autres, c'est Jacques Deray, mmh, qui vient de tourner La Piscine avec elle et Alain Delon. Et il lui dit, mais viens la voir, elle est en train de doubler en anglais et en allemand La Piscine, qui n'est pas encore sortie. Hein. Et donc Sauté va au studio de Boulogne Et puis avant, il est au bar ou en tout cas, il est au studio, il attend Jacques Deray. Et à ce moment-là, il voit deux femmes arriver, dont l'une petite avec un foulard, des lunettes de soleil, les cheveux qui sortent de son foulard et qui parle de manière très, très vive, très intense, avec beaucoup de gestes de la main, tout ça. Et il est fasciné par la vitalité qui se dégage de cette personne. Et il demande, quand elle est partie, il demande au barman ou à son voisin, je ne sais plus, et il lui dit « Mais c'est qui ?» Et on lui dit « C'est Romy Schneider ». Et il ne l'avait pas reconnu,
non.
Alors qu'il était là pour ça. Et il dira après, avant même de savoir qui elle était, j'avais envie de tourner avec cette femme-là.
Et c'est une rencontre suite, magique, évidemment. C'est
voilà.
Une rencontre
magique. Et tout de suite, il se donne rendez-vous.
Ouais, ouais.
Et voilà, il se donne rendez-vous. Elle est totalement séduite par lui aussi, à la fois par le charme qu'il dégage, par la passion qu'il anime, par la manière qu'il a. Et elle le raconte, c'est assez joli, parce que c'est une sorte de jeu de mots, où elle dit « J'avais jamais rencontré un metteur en scène qui parlait aussi bien de son film et aussi bien des choses de la vie. »
Voilà. Alors, Les choses de la vie, ça va être leur premier film. Je vous propose, Jean-Pierre Lavoignat, d'écouter la chanson d'Hélène. C'est évidemment la voix de Romy Schneider et celle de Michel Piccoli dans cette chanson extraite de la bande originale du film Les choses de la vie, 1970, Philippe Sartre, Claude Sautet, Romy Schneider. Moi, chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai les poils, comme on dit. Et vous, Jean-Pierre Lavoignat ?
Ben, bien sûr, c'est d'une émotion magnifique. En plus, les paroles de Dabadi,
ouais.
C'est merveilleux.
Ouais.
Juste le « Nous sommes septembre
ouais. »,
il faut le
c'est
trouver.
Pas mal,
c'est,
hein.
C'est de la poésie
c'est un
pure.
Grand chef-d'œuvre, quand
même. Ce qui est amusant, c'est que cette chanson ne figure pas dans le film.
Non, il n'en voulait c'est pas, Claude Sautet. Il n'était pas
Claude
très...
Sautet, non,
ouais, il n'était pas pour l'idée,
pas
quoi. Ouais.
Non, il n'en voulait pas du tout. Et elle a d'abord été faite un peu en cachette par Dabadi et Sardes. Et après, ils ont mis Sautet devant le fait accompli, qui au début était un peu énervé en disant « Mais même, ça va faire du tort au film et tout ça. » Et puis, le destin en a décidé autrement. Le film a été un énorme succès.
Ouais.
Et la chanson aussi. Moi, ce que je trouve assez fascinant avec cette chanson, c'est que depuis une quinzaine d'années, elle est revenue très très présente. Il
ouais.
y a eu des reprises, il y a eu. Alors que moi, je me souviens quelques années après le film, on l'entendait plus quoi. Et il y a eu une sorte de revival autour de cette chanson qui est incroyable et qui montre bien aussi l'impact de Romy Schneider aujourd'hui.
Ouais. On va écouter un extrait des choses de la vie parce que alors il y a évidemment le couple entre guillemets bien sûr couple Sautet Romy Schneider, mais il y a aussi Michel Piccoli. On écoute un extrait.
Qu'est-ce que tu fais?
Je te regarde.
Finis de traduire ma page, je te fais le café. Ah, verdammt nochmal. Dis-moi, quel est le mot pour, en français, pour mentir? Enfin, pas mentir, raconter des histoires. En allemand, c'est verschönen, ça veut dire mentir, mais quand on invente.
Affabuler.
C'est ça. Affabuler. Affabulé
2F. Oh, 2F, quelle scène! Et en effet, c'est les choses de la vie. C'est une scène toute simple, mais quelle magie! Lissy, on est à la radio, on entend que le son, mais on voit les images, on la voit tournant le
plan
dos.
Est magnifique.
Exactement. Tournant le dos à Michel
elle
Piccoli.
Elle a les épaules nues,
ouais,
on voit sa nuque, tout, et elle se retourne vers Piccoli et vers nous. Et elle regarde face caméra et elle est absolument sublime avec ses lunettes. C'est un plan magique.
Et puis cette réplique, hein, qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Mais voilà, tout est dit sur la relation entre ces deux-là. Ces deux-là, c'est Piccoli et Schneider. Alors, ils vont se retrouver sur plusieurs films. Ils vont se retrouver, bien sûr, dans Max et les Ferrailleurs, qui va suivre directement le tournage et le succès des choses de la vie. Mais ils se retrouveront aussi dans Le Trio Infernal et dans d'autres films qui ne sont pas de Claude Sautet. Il y a une magie aussi entre Piccoli et Schneider, non?
Ah oui, il y a une entente immédiate, une complicité très forte, de sorte de complémentarité. À la fois, Piccoli s'amuse avec elle et en même temps, il comprend. Il connaît son exigence artistique et il la prend un peu sur son aile au début. Elle s'entendra tellement bien avec lui qu'elle lui demandera d'être dans le seul film qu'elle a initié, voulu, qui sera hélas son dernier film, qui est La Passante du Sans-Souci.
Ouais, ouais.
Elle le choisira pour qu'il vienne lui donner la réplique. Et c'est un couple de cinéma magique parce que ça se définit pas, quoi. Il y a quelque chose qui passe entre eux qui est, oui, c'est ça, de l'ordre cadre presque magique, quoi.
Ouais.
Et c'est le comme couple ça qu'on qu'ils peut... formeront ouais. dans Max et les Ferrailleurs, qui est très très différent, puisque c'est une histoire de manipulation, et en fait chacun des deux va séduire l'autre finalement.
Ouais. Vous dites que c'est votre préféré parmi tous les films que vous citez dans ce livre, Jean-Pierre Lavoignat. Pourquoi Max et les Ferrailleurs?
Parce que il est...
Qui était le préféré de Sauter aussi, je pense.
Oui, il était le préféré de Sauter parce que c'est un film qui a un tout petit peu moins marché, mais quand même.
Ah ouais, on aime bien les enfants, ces enfants un petit
ça.
Peu malheureux.
Et
quoi.
Puis, c'est un film qui est très stylisé, qui est très... au niveau mise en scène, il est d'une rigueur et d'une pureté incroyable. Et je pense que le Piccoli incarnait un peu la face trouble et sombre que pouvait avoir Claude Sauté.
Ouais.
C'est-à-dire, il se reconnaissait aussi bien dans le personnage de Montand de César et Rosalie que dans celui de Piccoli dans Max et les Ferrailleurs. Et ce qui est d'ailleurs assez troublant, c'est que Piccoli était comme un double de Sauté, mais presque un double physique.
Ouais, ouais.
Il se ressemblait. Dans le livre, vous verrez, il y a deux photos de Mado, qui est un autre film où Romy Schneider a juste une petite participation et où Piccoli est le héros à nouveau. Et il y a deux photos de Piccoli, enfin une photo de Piccoli oui. avec Ottavia Piccolo et une photo de Sauté avec Ottavia Piccolo. On a l'impression que c'est les mêmes.
Oui, oui, oui.
Et Sauté racontait que Piccoli aimait beaucoup s'occuper lui-même de ses costumes.
Ouais.
Donc Piccoli lui avait dit « Laisse-moi faire pour les choses de la vie, je m'en occupe. » Et il est arrivé sur le tournage habillé exactement comme Claude Sauté lors de leur première rencontre quand Sauté lui avait parlé du personnage des choses de la vie.
Alors,
et il avait même poussé le zèle, lui qui fumait quasiment pas, à acheter les mêmes cigarettes que Claude Sauté.
Ouais. Voilà. Je voudrais juste sortir des films que vous citez dans votre livre, Jean-Pierre Lavoignat, pour un extrait, mais quel extrait, de Vincent, François Paul et les autres, pour parler justement de ce mimétisme entre Piccoli et Sauté. On écoute.
Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon ils se fâchaient. Justement, c'était la grande époque du dispensaire. Créons et multiplions les dispensaires de banlieue. Nous devons soigner les pauvres gratuitement.
La science n'est pas à vendre.
Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, fout tout d'un coup de baguette. Plus de dispensaire, dis donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris?
Non, mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez, un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa dent osseuse, quel genre mécanique, qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Écoute, François, écoute.
Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous, un bon dimanche, petit chico à la con! Merde!
Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la scène du gigot.
La scène du gigot.
Exactement.
Du dimanche.
On a entendu évidemment Yves Montand, on a entendu Serge Reggiani dans cette scène. Et cette scène, justement, c'est la scène de la colère qui a surpris tout le monde, évidemment. Cette colère de Michel Piccoli qui laisse tomber le gigot, qui sort de la pièce, qui laisse tout le monde complètement quoi. Il avait des colères aussi, Claude Sauté, non?
Mais bien sûr, c'est même une imitation
ouais.
de la part de Piccoli,
de nouveau mimétisme,
Claude
ouais.
Sauté. Claude Sauté pouvait tout d'un coup rentrer dans une colère folle qui durait pas forcément longtemps et qui après laissait pas de conséquences. Mais il était connu pour ces espèces d'emportements comme ça. Il devenait tout rouge et il piquait exactement le même type de colère.
Ouais, ouais.
Oui. Mais Romy était un peu pareil aussi. Hein. Ils avaient tous les deux des personnalités très fortes. Et Claude Sauté, qui parlait lui-même de coups de foudre créatifs, disait mais ça se transformait aussi de temps en temps en coup de gueule tonitruant.
Ouais, ouais, entre celle qui se qualifiait elle-même de teutonne, entre guillemets, et puis Claude Sauté. Une page de pub, et puis on se retrouve avec notre invité de ce midi, Jean-Pierre Lavoignat, pour continuer pendant quelques minutes encore de parler de ce très beau livre consacré à Romy Schneider et Claude Sauté. Sautet, un coup de foudre créatif. C'est un très beau livre de Jean-Pierre Lavoignat, notre invité, encore pour quelques minutes. Je voudrais qu'on écoute la voix de Claude Sautet. Jean-Pierre Lavoignat, vous parlez évidemment dans votre livre richement illustré de ces 5 films que Romy Schneider a tourné avec Claude Sautet. Après César et Rosalie, il y aura Mado et puis il y aura Une histoire simple en 1978. Je voudrais qu'on écoute la voix de Claude Sautet pour parler d'un sujet qui, moi, me tient à cœur, c'est la dimension, entre guillemets, sociale de ces films. On l'écoute.
Par moments, j'ai l'impression qu'un personnage n'existe pas assez si je ne vois pas les gens qui l'entourent. Mm-hmm. C'est-à-dire que si je dois vous connaître, vous, vraiment, il faudrait que je connaisse autre chose que le monsieur que j'ai en face de moi. C'est-à-dire qui vous fréquentez, vos amis, la famille, enfin, ce qui fait vous. Alors, je suis entraîné, quand je veux faire un portrait de quelqu'un, à décrire donc les gens qui sont autour. Et dans la vie, les gens restent rarement seuls. Ils sont confrontés aux gens avec qui ils travaillent, au milieu. Enfin, évidemment, dans mes films, il y a toujours des cafés, des bistrots, des groupes. Parce que c'est très rare qu'on reste une année entière tout seul dans la rue et dans sa chambre. On fréquente d'autres gens.
C'est vrai que quand on se souvient du cinéma de Sautet, c'est... un cinéma qui se déroule en effet dans des cafés, dans des restos, des longues scènes qui sont évidemment restées dans l'histoire du cinéma, où on fume beaucoup, où on entend... C'est le petit bar où on va manger le menu à midi, c'est le restaurant un petit peu plus chicose pour le soir. Il y a une dimension sociale immense dans le cinéma de Sautet, outre le fait évidemment qu'on y parle aussi des problèmes que les personnages rencontrent, problèmes financiers, problèmes liés au boulot, à l'économie, etc.
Oui, bien sûr, c'est très important pour lui, comme il le dit dans l'extrait que vous avez choisi. Il décrit tout un environnement, donc forcément le contexte social. Et c'est vrai que pendant longtemps, il a été un peu catalogué par une certaine partie de la critique, genre c'est le cinéaste des années Pompidou et Giscard. Ouais. Mais en fait, c'était d'abord, il avait une vraie conscience de gauche, depuis toujours. Et dans ses films, on voit justement l'approche de la crise, le changement de société, tout ça, sans que ça en soit le thème majeur, et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire il y a quelque chose à la fois de très réel et qui nourrit, qui donne de la chair aux personnages et aux situations qu'ils traversent.
C'est un cinéma, comme on l'a dit, qui est ancré dans la société, alors que c'est vrai que quand il a commencé dans les années 70, on était dans un autre type de cinéma à l'époque, un cinéma plus ouvertement engagé. On lui a reproché peut-être au début d'être un petit peu entre guillemets un cinéma bourgeois, puisque la plupart de ses personnages sont des hommes d'affaires, des banquiers, des gens qui font ou des ferrailleurs, exactement,
des architectes.
Est-ce qu'il cachait bien son jeu finalement, socialement parlant?
Lui, le cachait pas. Pour lui, c'était...
Non, mais dans son cinéma, je veux dire.
Pour lui, il a été surpris qu'on le... Et puis un peu agacé, forcément, qu'on le limite au cinéaste des années Pompidou et Giscard. Parce qu'il avait justement une dimension sociale bien plus profonde que ça et un sens de la conscience des classes. Mais ce qui est beau dans son film, c'est aussi ce mélange. C'est-à-dire que, justement, dans ses bars, dans ses cafés, tout le monde se mélange. Tout le monde, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des marginaux, il y a des hommes installés, et c'est presque aussi une sorte de quête de l'utopie d'une société plus harmonieuse.
Ouais. Allez, un dernier extrait avant de se quitter, Jean-Pierre Lavoignat, pour le plaisir, un extrait de César et Rosalie. Et quel extrait?
Ce type-là, il est sympa, hein?
Quel type? Je ne connais pas de type.
Oh, je sais plus son nom, là. Comment tu l'appelles? Daniel, Dani?
David.
David, c'est ça. Très sympa. Et c'est peut-être un peu trop, remarque. Hein? Le côté vaguement... Tu vois ce que je veux dire?
Non.
Si, tu sais, le côté...
Le côté quoi?
Le côté... On sent le type à l'aise, quoi.
Mais c'est comme toi. Ça s'appelle le charme.
Voilà, je cherchais le mot. Je sais pas, c'est quoi exactement entre toi et lui?
Rien. Tout. Rien.
Voilà, César et Rosalie, c'est la scène de la voiture, évidemment, où il se dit, tiens, ce David, là, il y a du danger. David, magnifique, Sami Frey, évidemment. Et là, c'est dingue, parce que juste, j'écoute cet extrait pour la centième fois, et je me dis, il y a d'un côté, il y a un latin, montant qui essaie de faire le malin et puis de l'autre côté il y a cette espèce de froideur un petit peu du nord. C'est incroyable cette scène, non? Elle est superbement écrite, évidemment.
Ah ouais, très bien écrite. Et en plus, là, on n'a pas les images, mais ce qui est rigolo, c'est le regard semi-amusé de Romy Schneider sur Yves Montand, qui voit très bien où il veut en venir. Mmh. Et lui, qui en fait un peu trop, franchement. Et puis, c'est la définition même du charme. Et ça pourrait être la définition du film en lui-même, quoi. C'est un film absolument qui nous laisse sous le charme total, où elle est lumineuse, magnifique. Et c'était aussi la force de Romy Schneider, c'est ce que disait Sauté, c'est que peut-être justement en raison de ses origines étrangères, elle déstabilisait le macho français. Ouais. Les hommes devant elle pouvaient pas garder leur masque de macho trop longtemps. Elle les déstabilisait parce que elle était à la fois extrêmement séduisante et totalement insaisissable. Et justement, ça les ébranlait beaucoup.
Une dernière question, Jean-Pierre Lavoignat, pour parler de ce couple incroyable. Il y a ce sous-titre, coup de foudre créatif. Est-ce qu'il y avait quelque chose un petit peu aussi du coup de foudre de l'amitié ou même l'amour entre ces deux-là?
Je pense qu'il y a eu un vrai coup de foudre amoureux, mais que chacun avait sa vie et qu'ils l'ont sublimé, et que à la limite, c'est ce que je dis à un moment donné, ce qu'ils ont sans doute pas pu ou pas voulu se donner dans la vie, ils se le sont donné dans les films.
Mmh. 5 films, on va conseiller nos auditeurs, s'ils n'ont pas vu ces films, de les découvrir, évidemment. Je pense que les films existent maintenant sur pas mal de plateformes. Il y a Les Choses de la Vie, il y a Max et les Ferrailleurs,
De ressortir chez Studio Canal en DVD.
Pour ceux qui savent encore les lire, mais oui, évidemment, il y en a encore. Il y a également Mado, qui était finalement une petite scène, mais une très grande scène de Romy Schneider. Et puis, on termine avec Une Histoire Simple en 1978. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lavoignat, d'avoir été avec nous dans cette émission. Romy Schneider, Claude Sautet, Un coup de foudre créatif. C'est aux éditions de La Martinière. Merci beaucoup.
Merci à vous.